C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation des sols et des moyens d'y remédier alors que les États européens tardent à adopter une directive cadre sur la protection des sols. Et si c'était à nous, citoyens, de faire pression sur la Commission européenne pour qu'un texte soit enfin adopté? C'est l'idée de 350 organisations en Europe qui ont lancé une pétition pour que les fonctions et services que les sols nous rendent soient enfin reconnus et protégés. Suite de notre débat avec nos trois invités, Solène de Monet de France Nature Environnement, coordinatrice du projet pour la protection des sols, Maïlys Desrousseaux, chercheur en droit de l'environnement, et Dominique Arouet, agronome à l'INRA d'Orléans. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons fait un petit inventaire des dangers qui menacent les sols. On comprend donc qu'il est important d'agir et de légiférer. Or, on l'a dit tout à l'heure, en 2014, la Commission européenne a enterré une directive cadre sur la protection des sols après 8 années de négociations. Comment l'expliquer, Maïlys Desrousseaux? Ce n'était pas que la faute de la Commission européenne, hein. Nous disiez-vous.
Voilà, on précise bien, c'est essentiellement la faute de certains États membres, hein, finalement, mais ça c'est sur le fond une question...
On peut les citer, il y avait 5 pays, c'est ça, la France, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
C'est une question donc plus politique que juridique finalement, puisqu'on a bien vu tout à l'heure que le droit allemand était plus avancé par exemple que le droit français en matière de protection des sols. Donc on pourrait s'étonner que l'Allemagne et la France se rejoignent finalement sur le fait qu'on refuse cette directive européenne. Eh bien, les premiers éléments de réponse qu'on peut apporter, qui vont être théoriques finalement, c'est quelle perception est-ce qu'on a du sol ? En droit international, le sol, c'est l'assise des territoires. Et donc, c'est un objet très fort de souveraineté. Et par conséquent, on observe qu'en droit international, il y a très peu de conventions qui s'intéressent à la protection du sol. Et une des raisons qui a été avancée pour l'abandon de la directive, c'est également que les États considèrent, en invoquant le principe de subsidiarité, que les questions de sol sont mieux traitées à l'échelle locale qu'à l'échelle supranationale.
Donc en fait, ce sont ces deux principes de souveraineté et de subsidiarité qui, d'un point de vue juridique, freinent la protection des sols, c'est ça ?
Si on veut faire un comparatif avec l'eau, par exemple, il y a un certain nombre de conventions internationales qui s'intéressent à la protection de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau traverse les frontières, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Plusieurs États vont partager une même mer ou un océan. Donc à partir de là, ils ont été forcés de s'entendre sur la qualité écologique de cette ressource naturelle. Or, le sol est considéré comme un élément immeuble et les États ne perçoivent pas que la dégradation d'un sol à un endroit donné peut avoir des répercussions de l'autre côté de la frontière, tout simplement.
Mais oui, Dominique Arouet.
Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que certains États nous disent le sol ne bouge pas, donc on va s'en occuper avec le principe de subsidiarité. En fait, si on réfléchit un peu, le sol, il bouge. On nous a dit que l'eau bougeait. Ben, dans l'eau, il y a quoi quand ça s'érode ? Il y a du sol, quoi. Donc le sol, il traverse les frontières. Il traverse les frontières via l'érosion hydrique, via l'érosion éolienne. Et puis, si maintenant on raisonne carrément globalement, je veux dire, si on raisonne l'effet de serre à l'échelle de la planète, quand un pays émet du CO2 via ses sols, c'est toute la planète qui le contamine quelque part. C'est toute la planète qui est en jeu. Donc je pense qu'on ne peut pas se protéger derrière ce principe de subsidiarité. Je pense que c'est, je dirais, entre nous, c'est un peu le prétexte qui a été pris. Il y a d'autres enjeux sur cette directive. Il y avait des enjeux qui étaient énormes, qui étaient autour, par exemple, des sites contaminés.
Et... Alors ça, justement, Dominique Arouet, expliquez-nous, parce que ça pourrait être une explication de ce refus de la Commission européenne, finalement.
Pour moi, ça pourrait être une explication. Il y avait un chapitre, le chapitre 3, qui traitait des sites contaminés et qui disait, en substance, les pays devront recenser l'ensemble des sites contaminés qu'ils contiennent et devront mettre en place un cahier des charges pour
dépolluer.
Savoir comment ils vont les réhabiliter ou les dépolluer. Alors, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui se sont opposés à cette directive, imaginez bien...
Les grandes Europe, finalement, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne.
Imaginez l'Allemagne qui se dit, bon, il va falloir que je décontamine l'ensemble de la Ruhr et qui prend sa calculette pour voir combien ça va coûter. Imaginez le Royaume-Uni qui était vraiment un site, je veux dire, un pays extrêmement industrialisé à la fin du siècle, pas du siècle dernier, du siècle d'avant, qui va devoir réhabiliter tous ces sites contaminés. Ces gens-là, ils ont pris leurs calculettes, ils ont dit c'est pas possible, on va dans le mur économiquement. Et je pense que c'est une des raisons qui n'a pas été dite, parce que c'était pas politiquement correct, mais que c'est une des raisons qui a fait qu'un certain nombre de pays ont freiné. Quant à la France, elle n'a pas dit non. Elle a, dans sa grande sagesse, comme d'habitude, elle s'est simplement abstenue. Mais ça a suffi, en fait, à provoquer une minorité de blocage, puisque 5 pays qui ne disent pas oui, à ce niveau-là, ça suffit à bloquer.
Mais pourquoi, Mélisse Desrousseaux, avoir groupé ces deux aspects, décontamination de sites industriels et protection des sols? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de les séparer?
Ben, séparer, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Quand vous regardez le droit français, vous allez avoir...
Oui, mais quand ils ont, en 2014, quand la Commission européenne a refusé, ils étaient mis sur un pied d'égalité.
Oui, ben justement, c'est ce qu'on voudrait faire finalement, c'est considérer les opérations de réhabilitation des sites et sols pollués au même titre que la législation sur la protection des sols, parce que dans la dépollution des sols, on va avoir tendance à finalement remettre le sol en état tel qu'il devrait l'être pour un usage donné. Mais on va à aucun moment obliger le responsable de la remise en état à restaurer écologiquement les fonctions d'un sol. Donc finalement, mettre dans un même texte les cités sols pollués et la protection des sols, c'était une énorme avancée, ça changeait complètement la perception qu'on pouvait en avoir.
Oui, mais la logique économique était là encore une fois. Il y a des réalités avec lesquelles il faut faire, Solène de Monet.
Oui, malheureusement, c'est des considérations politiques et qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de protéger les sols qui pourtant nous rendent beaucoup de services. Alors, mettre les cités sols pollués de côté, c'était se protéger économiquement, mais c'était nier la réalité des faits qui était que notre activité industrielle avait laissé derrière elle un passé trop lourd, dont on n'avait pas su garder la trace des responsables de ces pollutions, et donc qui représentait un trou économique pour les États qui, de fait, devenaient responsables de la dépollution de ces sites.
Mais c'est vrai que la protection de l'eau et de l'air sont beaucoup plus évoluées. Comment l'expliquer? Le sol est complètement laissé à l'abandon, Dominique Arouet. Comment on l'explique, ça?
C'est assez simple. L'eau, on la boit. L'air, on le respire. Donc tout ça, c'est considéré comme un bien commun, comme un bien commun de l'humanité. Le sol a de rares exceptions, à part les enfants qui sucent leurs pouces et quelques tribus qui en mangent. On le consomme pas. Donc on voit pas réellement, son impact en particulier sur notre santé. Même si on sait très bien que ce sol-là, ben, on peut éventuellement le respirer, on peut l'ingérer, et puis surtout, il peut contenir un certain nombre de substances qui, en passant dans les plantes que nous allons consommer et dans les animaux qu'on va consommer en bout de chaîne, vont provoquer des effets toxiques sur les humains. Donc en fait, on n'est pas conscient, tout simplement parce qu'on ne le respire pas, parce qu'on ne le boit pas. Il est là, c'est une chose brune qui est sous nos pieds et qu'on ignore totalement.
Mélisse Desrousseaux.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les exemples qu'on peut avoir de protection, de mécanismes de protection des sols, ça va être par exemple la protection des périmètres de captage, donc les captages d'eau potable. Et autour, vous pouvez avoir une restriction, voire une interdiction complète des usages du sol. Parce qu'on ne veut pas polluer la nappe qu'il y a en dessous. Donc on peut le faire, on sait le faire, mais c'est simplement que quand il n'y a pas d'eau derrière, on n'a pas l'intérêt de le faire.
Mais Dominique Arouet, vous parliez tout à l'heure de méconnaissance finalement du sol et des services qu'il nous rend. L'année dernière, l'année 2015, les Nations Unies ont décrété l'année internationale des sols. Ça a dû permettre aux gens d'en connaître un petit peu plus. Peut-on vraiment parler de méconnaissance encore aujourd'hui en 2016?
Je pense que pour le citoyen lambda, pour l'homme de la rue, il y a encore une assez forte méconnaissance. Si vous allez interroger les gens sur le trottoir en face des studios ici, vous leur demandez ce que c'est que le sol, ils vont commencer par regarder le trottoir qui est sous leurs pieds.
Oui, mais ça c'est comme tout le monde. Mais donc, après, il y a une réflexion.
Il y a quand même une réelle méconnaissance pour l'instant, je dirais, chez le citoyen lambda. Entre guillemets, il y a une prise de conscience politique quand même, qui heureusement est portée par certaines associations, mais il y a une réelle prise de conscience politique liée à cette année internationale des sols, et liée au fait que la FAO donc, a décrété cette année internationale des sols, et a publié finalement un rapport sur l'état des sols du monde, qui a fait un peu de bruit, en tout cas dans la sphère politique, en 2015, et a également demander à tous les pays membres de la FAO de signer un partenariat mondial sur les sols qui les engage formellement à respecter une certaine charte d'utilisation des sols. Donc il y a un progrès, il y a un progrès politique. Est-ce que cette charte va être complètement respectée? C'est le problème de tous les traités internationaux. Mais en tout cas, il y a un pas en avant qui est important.
Solène Demonet, vous, au niveau associatif, vous constatez justement cette méconnaissance des citoyens des qualités du sol? C'est vraiment, vous pouvez concrètement le mesurer?
Ah oui, on le mesure tous les jours, puisque, comme disait Dominique, les citoyens ne savent pas qu'il y a un lien direct entre la qualité de l'eau et la qualité des sols. Le rôle des sols dans la lutte contre le changement climatique, ça reste finalement assez confidentiel. Et même s'il y a un sursaut politique aujourd'hui sur le rôle des sols, nous, notre rôle en tant qu'ONG, donc France Nature Environnement France, mais aussi le réseau d'associations People for Soil qui porte la pétition européenne, notre rôle, c'est de faire en sorte que les politiques agissent sous pression des citoyens. Et pour que les citoyens fassent pression sur les politiques, pour que les choses changent, il faut que les citoyens connaissent le rôle des sols, donc les services que rendent les sols au quotidien aux citoyens et également les menaces qui pèsent sur eux.
Mais tout à l'heure, on parlait de changement climatique, justement. Avec la COP21, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça n'a pas aidé à sensibiliser le grand public? Là, je ne sais pas qui veut répondre, Dominique Arouet, Maïlys Desrousseaux.
Oui,
ce constat d'échec, de manque d'éducation?
Je peux peut-être dire un petit mot là-dessus. Je ne suis pas certain que le grand public ait été très touché par l'initiative dite 4 pour 1000 de la France. C'est quand même resté, je pense, dans une sphère de gens qui connaissaient déjà un petit peu la situation. C'est pas si facile que ça d'expliquer au grand public que les sols sont des puits de carbone vis-à-vis de l'atmosphère et qu'en les enrichissant en matière organique, on peut lutter contre le changement climatique. À nous, ça nous paraît très simple parce qu'on connaît parfaitement l'objet, on sait comment il fonctionne, mais c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'on a peut-être loupé un petit peu de communication et d'éducation vers les citoyens et vers le grand public.
Oui, Solène Demonet.
Oui, par rapport au changement climatique et au sol, les citoyens peuvent se sentir démunis aussi par rapport à ça, en disant « oui, je veux bien lutter contre le changement climatique, mais je fais quoi ?» Et c'est pareil pour les sols. Je veux bien protéger les sols, mais qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas agriculteur, je ne peux pas changer les pratiques de l'agriculteur qui est à côté de chez moi. Qu'est-ce que je fais? C'est là aussi le rôle de France Nature Environnement, c'est de dire « vous, citoyens, vous pouvez faire quelque chose ». À deux points de vue. La première chose, c'est en tant qu'individu, vous pouvez changer vos pratiques par exemple, en compostant ces biodéchets. Donc, on les remet, on fait un retour au sol ou en changeant votre rêve de vivre dans un pavillon individuel dans un lotissement. Non, vous allez plutôt rénover de l'ancien. Et donc, voilà, en changeant ces petites pratiques, le citoyen se sent concerné. Et évidemment, le mieux, c'est de réussir à peser sur les politiques publiques en signant la pétition européenne.
Maïlys Desrousseaux, vous pensez qu'on en demande trop finalement aux citoyens, qu'ils sont un peu... toutes ces questions environnementales ont un côté anxiogène pour les citoyens. On leur demande de ne plus prendre leur voiture, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Est-ce que trop de choses demandées aboutissent à rien finalement?
Alors moi, je pense déjà que le citoyen, il est aussi le propriétaire. Et en droit civil, eh bien, chacun est empereur sur son lopin de terre, tant que vous ne troublez pas l'usage de la parcelle voisine. Donc finalement, protéger les sols, c'est aussi peut-être à un moment réduire l'emprise que vous avez sur votre droit de propriété. Donc là, on peut trouver aussi peut-être un début d'explication de pourquoi est-ce que le droit des sols n'est pas aussi développé que le droit de l'eau ou le droit de l'air. Après, pour ce qui est de ce que j'imagine être l'écologie punitive, hein, pourquoi toujours faire plus de droits et plus de contraintes? Bien finalement, il y a des recherches qui ont été menées sur les approches volontaires, sur la contractualisation du droit de l'environnement, les chartes d'engagement. Ça marche jusqu'à ce que les gens ne soient plus d'accord, et quand les contraintes sont trop fortes, et bien finalement le contrat est rompu. Donc le pouvoir unilatéral, administratif, réglementaire, et ici il y a un très très fort rôle à jouer, ça j'en suis convaincue.
The Arcs dans C'est pas du vent sur RFI, légiférer pour protéger les sols, c'est le thème de notre débat du jour avec nos invités. Solène Demonet, coordinatrice du projet pour la protection des sols à France Nature Environnement, Maëlys Desrousseaux, chercheur en droit de l'environnement et Dominique Arouet, agronome à l'INRA d'Orléans. Alors Maëlys Desrousseaux, en droit international, il n'y a qu'une convention sur la désertification. C'est bien, mais pourquoi les autres menaces ne sont-elles pas prises en compte ?
Eh bien, parce que déjà, la science était peut-être moins avancée en matière de découverte sur les sols. Donc, souvent, le droit suit les avancées de la science. Il y a vraiment une interpénétration entre le droit de l'environnement et les découvertes scientifiques. Et on estimait encore, dans les années 70, que la recherche sur les sols était moins développée. Je ne sais pas, Dominique, si tu corrobores ou...
Dominique,
c'est une des explications.
Je corrobore et vous.
Je corrobore. Je voudrais quand même signaler que le sol commence à pointer son nez, commence à rentrer dans les grandes conventions internationales. Et donc, il en est clairement question maintenant dans les conventions sur la biodiversité, où on a réussi à faire rentrer le sol dans la biodiversité. Il en est question également sur la convention pour la désertification. Et avec l'action 4000 qui est en route, je pense qu'il va en être question également dans la convention sur le changement climatique et dans les futures COP. Il en a été question lors de la COP21, il en sera de nouveau question lors de la COP22.
Oui.
Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a aussi le protocole sur la protection des sols à la convention alpine. Donc il y a un texte spécifique qui vient se placer sous un texte plus général qui concerne le massif alpin. Les États du massif alpin, frontaliers du massif alpin, se sont mis d'accord sur cette convention-là et sur une protection des sols. Le problème, c'est qu'elle n'est toujours pas entrée en vigueur depuis 1995. Donc un texte international existe, mais il n'a pour l'instant pas de force juridique, ce qui est bien dommage. Donc, on pourrait mesurer justement l'impact de sa mise en œuvre.
Solène Demonet, justement, donc, vous appelez les citoyens à faire pression sur la Commission européenne pour avoir une directive cadre, mais à quelle fin ? Pour prévenir, pour pouvoir pénaliser derrière ? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle directive ?
Alors, notre objectif n'est pas du tout de pénaliser les citoyens, c'est justement de...
Non, pas les citoyens, mais là les États, on pourrait, qui ne respecteraient pas la loi.
L'abolition des frontières.
Alors, ce que nous souhaitons, nous, c'est que finalement, on reconnaisse enfin une protection au troisième mousquetaire. C'est-à-dire, au niveau européen, on a la protection de l'eau, on a la protection on a la protection de l'eau, on a la protection de l'air, et puis il manque le troisième mousquetaire, qui est les sols. Donc, finalement, nous, ce qu'on demande, c'est avoir un développement des pays européens qui soit conforme à une protection de ce milieu riche donc qui prenne en compte tous les aspects, dans les différentes activités que nous allons mener sur notre territoire, qu'on prenne en compte les impacts sur le sol.
Dominique Arouet, vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis plus favorable à des politiques incitatives qu'à des politiques, je dirais, de...
Répressives,
parce que je pense tout simplement que ça marche mieux. Mais il y a peut-être des moments où il faut être répressif quand même. Je voudrais quand même rassurer les auditeurs. On ne vise pas avec People for Soil... à nationaliser l'ensemble des sols de France ni d'Europe. Ça a déjà été tenté dans certains pays, puis ça n'a pas très bien marché. Donc on y renonce à ça. Hein. Le droit de propriété existe toujours. Et ce qu'on veut, c'est inciter finalement les gens à des bonnes pratiques. C'est inciter à la fois le citoyen, mais aussi les acteurs sur le terrain, les agriculteurs, les forestiers, à avoir des bonnes pratiques qui permettent d'avoir des sols qui fonctionnent correctement et qui nous rendent tous les services écosystémiques qu'ils sont capables de nous rendre.
Avant de parler un petit peu des sols en Afrique, Maëlys Desrousseaux, un petit mot sur la politique agricole commune et la protection des sols, puisque la PAC a évolué ces dernières années.
Oui, on peut revenir sur la conversation qu'on avait tout à l'heure sur les pratiques agricoles, qui sont de mieux en mieux accompagnées par cette politique agricole commune, mais qui reste encore insuffisante dans la mesure où vous allez avoir les bonnes conditions agricoles et environnementales qui vont représenter un socle commun pour que chaque agriculteur ait accès à des aides, mais qui sont finalement très minimes par rapport à tout ce qui pourrait être fait. En plus, et qui là, cette fois-ci, dépend du volontariat.
Mais la conditionnalité, c'est quand même une bonne chose, selon vous, Dominique Arouet ?
Pour moi, oui, c'est une excellente chose, oui.
Solène de Monet, vous partagez l'avis de Dominique Arouet? Vous êtes tous d'accord en ce moment, alors.
C'est une bonne chose, mais on pourra aller beaucoup plus loin.
Allez, on va parler un petit peu d'Afrique de l'Ouest. On le disait, en droit international, il y a une convention sur la désertification. Or, la désertification s'accélère partout. Comment vous l'expliquez, Dominique Arouet?
Alors, moi, je l'explique en particulier par une... Bon, d'une part, par le changement climatique, encore lui. Mais aussi par une pression accrue sur les sols et une mauvaise gestion des sols liée au fait qu'il y a une pression vraiment accrue, en particulier dans les pays qui sont à la zone, je dirais, soudano-sahélienne, où on a une dégradation des sols qui s'accélère sous l'effet du surpâturage, qui s'accélère sous l'effet d'une mauvaise gestion des matières organiques, qui s'accélère également sous l'effet d'une faible production qui est liée au fait que on n'a pas d'intrants finalement, on n'a pas d'apport ni organique ni minéral à mettre dans ces sols-là, et donc ces sols-là...
Pour les agriculteurs, c'est la spirale de la pauvreté.
C'est une espèce de spirale de la pauvreté, c'est-à-dire que vous avez très peu de production, donc vous avez très peu d'argent ou de moyens pour ramener, des inputs, des intrants organiques ou minéraux à votre sol. Donc vous produisez de moins en moins, donc vous avez de moins en moins d'argent pour investir. Et au bout d'un moment, votre sol est complètement épuisé. Et quand il est épuisé, qu'est-ce qui se passe? C'est la désertification, c'est l'érosion. Et ce sont des gens qui quittent leur territoire et qui vont grossir les mégalopoles.
C'est ça le principal problème, contrairement à l'Europe où on se disait que c'était l'artificialisation, parce qu'elle a lieu, elle existe également cette artificialisation en Afrique avec ces mégalopoles qui grandissent de jour en jour, notamment avec ces constructions incertaines que sont les bidonvilles.
Oui, l'Afrique c'est en grande partie, enfin le pourtour des grandes villes africaines c'est en grande partie des bidonvilles, mais si on s'intéresse vraiment à l'impact sur le sol et si on veut que ces bidonvilles arrêtent de grossir, il faut stopper le système en amont, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux paysans et aux petits paysans africains de continuer à vivre sur leur terre. Et pour leur permettre de continuer à vivre sur leur terre, il faut qu'ils aient un revenu suffisant. La petite agriculture familiale africaine, elle ne peut pas vivre actuellement avec le peu d'apport qu'elle met sur ses sols. C'est ça le problème numéro un.
Mais Élise Desrousseau, on a l'impression qu'on dresse ce constat depuis de nombreuses années et que finalement rien ne change. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour aller de l'avant et essayer de tenter de régler les problèmes?
Je verrais deux choses. D'abord, je crois qu'il faut quand même évoquer le problème de l'accaparement des terres en Afrique par les grands investisseurs étrangers. Il y a des tentatives pour finalement rationaliser un peu ce phénomène. Notamment, le Parlement européen avait présenté une recommandation, mais bon, sans force bien sûr juridique en Afrique, et la sécurisation des régimes fonciers africains où beaucoup d'éleveurs, par exemple, sont des nomades et n'ont pas de titre de propriété et se voient du jour au lendemain exclus de leur passage ancestraux. Ça, c'est peut-être un premier problème africain. Après, il y a une initiative qui est portée par la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui se veut l'équivalent du GIEC sur le climat et qui est en train de préparer un rapport d'études pluridisciplinaires sur l'Afrique, donc en rapport avec la biodiversité. Ce sont des rapports régionaux et aussi des rapports thématiques sur la dégradation des terres. Et en fait, c'est très important parce que ces rapports-là prennent en compte tout ce qui est les savoirs autochtones et les pratiques ancestrales. Et donc, à partir de là, on va valoriser à l'échelle internationale ces pratiques-là et peut-être, pourquoi pas un jour, aboutir à un texte de protection.
Dominique Arouet, vous partagez le sentiment de...
Je partage tout à fait l'avis de Maïlise. Je pense que c'est extrêmement important de prendre en compte ces pratiques ancestrales et de voir, comment on peut... à la fois les adopter ou les modifier en fonction du changement climatique ou en fonction de la pression qu'il y a sur les sols actuellement et qui n'est plus du tout la même que celle qu'il y avait il y a un siècle ou deux. Il faut voir ça aussi, il faut voir que la population augmente, que la pression sur les sols augmente également et que donc il y a des adaptations à trouver à ces pratiques ancestrales.
Eh bien écoutez, merci infiniment à tous les trois d'être passés dans ce studio. Solène de Monet, on peut peut-être rappeler le site pour signer la pétition, si jamais nos auditeurs avaient envie de la signer. C'est le site www.peopleforsoil, alors for c'est 4, .eu, ou alors sur votre site à France Nature Environnement.
Voilà, www.fne.asso. cepaduvent.fr.
Et puis évidemment, on donnera également le site sur notre site à nous, à C'est pas du vent. Merci en tout cas à vous. C'est la fin de cette émission réalisée par Nicolas Benita. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Cécile Bras et François Porcheron. Très bonne journée à tous. À suivre, un nouveau journal sur la Radio du Monde.